Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Vincent Lefort. Bonjour.
Bonjour.
Vincent Lefort, vous êtes entre autres un des créateurs de Côté Cairn, cette production de vin en biodynamie et bio.
Oui, oui, c'est ça. On est trois. Jusqu'à présent, donc Cyril Copier, Sylvie Ambise, ma compagne, et moi, en 2015, on a formé ce groupement. C'est un GIE, on appelle, donc un groupement d'intérêt économique. C'est une forme un peu simple d'organisation, disons, qui est le prolongement de nos fermes. Et donc, on vend les vins qu'on produit sur les exploitations.
Cette production de vin ou de raisin dédiée à la vinification répond à des normes de bio depuis combien d'années ?
Alors, nous, on est en bio depuis le début de notre carrière, quoi, donc disons en 85. Et on est en biodynamie certifiée depuis 2015. Mais Cyril s'était certifié un petit peu avant. Donc, on a toujours travaillé en bio, en fait, depuis qu'on a les vignes, depuis qu'on est vigneron, disons. Voilà.
Par rapport à une installation de ce type à l'époque et la pratique conventionnelle qui existait à ce moment-là, quelles ont été les embûches sur le moment pour développer cette activité ?
Ben, disons que... C'est vrai qu'on a été un peu pionniers. Hein. Dans les années 80, il y avait très peu. Il y avait la cave à Char à Sainte-Croix, là, qui était déjà en bio, avec qui on avait échangé à l'époque aussi un peu sur les sujets techniques. Puis après, voilà, chacun a travaillé dans son coin, si on peut dire. Mais c'est vrai que le principal problème, c'était qu'il y avait très peu de matériel. Il y avait très peu de données. La Chambre d'agriculture, tous les instituts qui s'occupent de la technique viticole s'en fichaient complètement et même considéraient qu'on était des charlots. Donc l'aide, les premières années, c'était pas vraiment ça. Et c'est plutôt autour de cette activité qu'on a, disons, de reconversion. Il y avait pas mal d'agriculteurs qui étaient intéressés par la bio, mais pas spécialement en vigne, mais en brebis, en céréales, en plantes aromatiques dans les années 80. Et on avait monté un groupement à l'époque de travail en commun avec tous ces gens. Et c'est ça qui nous a aidés à beaucoup, quoi. Donc c'était surtout les producteurs de plantes aromatiques, même. On peut dire que c'était eux qui étaient en pointe.
C'est un groupement qui n'existe plus aujourd'hui ?
Pas sous cette forme, non. C'était Chourde Vartena et puis la coop de céréales et la CAF coopérative qui s'était regroupée en fait pour demander des aides à l'Europe pour faire un plan de développement de la bio. Voilà.
À cette acquisition de terrain pour y traiter la vigne, comment s'est passée la transition ? Est-ce qu'il y avait déjà une vigne existante sur ce terrain ou il a fallu tout replanter ?
Un peu les deux. On a repris des parcelles de nos voisins, de Barnave et de Minglon. D'ailleurs, plutôt des vieilles vignes qu'on a en général plutôt arrachées, disons, dans les années qui ont suivi. Donc, pour l'essentiel, on est reparti sur des plantations, sur du terrain nu, directement en bio, soit en replantant, en fait, en arrachant et replantant les vignes qu'on avait louées. Donc voilà, on n'a pas eu trop de problèmes de transition.
Si c'était dans la perspective de préparer la clairette, il y avait différents cépages aussi à planter.
Ouais, voilà, on est essentiellement producteur de muscat sur le Haut-Diois. On a aussi un peu de clairette, on a aussi l'appellation Châtillon en Diois, qui est une petite perle sur les communes entre disons Pont-de-Quart et Châtillon. Et Barnave a la chance d'en faire partie pour le Blanc. Et ça, c'est vraiment très intéressant de pouvoir aussi faire du vin blanc et du vin rouge. Et nous, c'est un peu vers ça qu'on se tourne aussi. À côté Kern, on n'est pas les seuls d'ailleurs, mais c'est l'idée de pouvoir produire le vin des habitants d'ici, quoi. C'est vrai que la bio a cette ambition de nourrir ses voisins, on peut dire en circuit court. C'est quand même ça un des intérêts de l'écologie en agriculture. C'est à la fois de produire propre et aussi de vendre à ses voisins les plus directs. Et c'est vrai que la clairette, c'est pas un produit de consommation courante. Donc forcément, alors que du vin rouge ou du vin blanc, on peut en consommer un peu plus. Donc voilà, on a envie de faire ça. Une production de vin tranquille, comme on dit, c'est-à-dire sans bulles.
Ce terrain est là. Et puis, l'idée de le pratiquer en bio, il a fallu tout découvrir dans cette technique.
Disons que le fond de... Bon, j'avais une formation agricole, mais à cette époque-là, et même encore maintenant, malheureusement, on ne parle pas tant que ça de l'agriculture bio. Hein. C'est souvent une petite annexe dans la formation générale. Mais c'est sûr que pour moi, il était hors de question d'utiliser les produits pesticides et herbicides et insecticides qui étaient utilisés de façon massive à cette époque-là. Je pense que dans le Diwa et en viticulture en général, les choses évoluent plutôt favorablement. En tout cas, dans le Diwa. Les autres régions, je connais moins, mais les insecticides... Bon, par exemple, ou acaricides, c'est-à-dire ce qui tue les araignées, c'est quand même des produits qui sont assez proscrits aujourd'hui. Mais voilà, la viticulture, c'est quand même un des plus gros pollueurs à l'hectare, hein, viticulture, arboriculture. Donc il faut prendre des mesures draconiennes, disons, et l'engagement dans l'agriculture bio aide finalement parce qu'on est engagé par un cahier des charges. Et en plus, comme on est dans une mention collective, il est pas question de déroger en quoi que ce soit, puisque c'est notre responsabilité vis-à-vis de tout l'environnement, de tous les voisins, de tout ça.
L'agriculture conventionnelle, ou du moins la viticulture conventionnelle, émane de quel cahier des charges et de quelle période ?
Conventionnelle ?
Oui.
Bon, non, il n'y a pas de cahier des charges, en fait.
Il y a forcément une réglementation d'utilisation.
Voilà, il y a une réglementation. Alors déjà, parce qu'on est en AOP, donc c'est appellation d'origine protégée, ce qui a remplacé l'AOC. Donc il y a un cahier des charges géré par le syndicat des producteurs, là, qui est à Vercheny, et qui est une structure collective de défense, mais aussi de normes. Hein. Donc il y a certaines contraintes. On a, par exemple, aujourd'hui, on n'a plus le droit, bio ou pas, hein, de désherber la totalité des parcelles, ce qui était la pratique habituelle avant. Aujourd'hui, c'est interdit. Le syndicat exige que les bordures de champs, là où on tourne, ce soit enherbé. Voilà, il y a plein de choses qui évoluent positivement. On ne doit pas traiter les parties proches des ruisseaux. Voilà, il y a des règles, y compris pour le conventionnel. Et puis dans l'utilisation des produits qu'ils utilisent, il y a aussi un effort pour diminuer les doses, faire un petit peu plus attention, disons. Je pense que tout le monde, en tout cas dans le Diwa, à quelques exceptions près, a envie d'aller dans ce sens, parce que c'est le sens qu'indique la société. Hein. De toute façon, je pense que maintenant, plus personne ne peut se cacher en se disant « on s'en fiche, on travaille comme on a envie, au plus simple ». La société ne le tolère plus. Donc, de toute façon, ceux qui freinent seront rattrapés par la troupe. Hein. Ça, c'est...
Je reviens à ce mode de culture conventionnel par rapport à l'histoire de la viticulture. À quel moment l'utilisation de produits insecticides, herbicides et compagnie sans entrer dans un champ d'application? L'idée, c'est la viticulture bio, c'était celle qui avait avant ce mode d'agriculture?
Oui, c'est ça. C'est pour la viticulture comme pour toute l'agriculture européenne, on va dire, c'est vraiment... L'apparition des engrais, c'est après la guerre de 14. Donc, quand on a commencé à faire de la chimie, beaucoup suite à la reconversion des industries de l'armement. Hein, donc, ensuite, les herbicides se sont répandus, en tout cas dans le Diwa, je pense après la guerre de 40. Donc, plutôt dans les, on va dire début des années 50. Et comme ici, c'est un pays très escarpé, enfin, les vignes sont dans les coteaux, la terre est lourde, enfin, très argileuse, c'est pas facile à travailler. Et donc, les gens, pour eux, ça a été vraiment un miracle, quoi. Ils ont beaucoup moins peiné. Avant, ça se faisait au cheval, avec la pioche. Voilà, donc il faut reconnaître que c'était dur, quoi. C'était vraiment dur. Donc il y a eu un élan qui est l'élan de toute la société vers une certaine modernité, une facilité de travail. Mais tout s'est fait au prix d'une grosse utilisation de pétrole. Hein. Toute l'industrie chimique, c'est forcément lié à l'industrie du pétrole. Et au détriment de l'écologie. Ça, c'est pas que la viticulture. On peut dire que c'est en gros l'évolution de la société en général.
Est-ce qu'on peut remarquer, à vue d'œil, une différence entre un raisin issu de l'agriculture conventionnelle et puis celle du bio ? Est-ce qu'il y a les mêmes rapports ?
Alors, la vigne, on peut facilement repérer une vigne bio. C'est sûr qu'elle a beaucoup plus d'herbes, elle a peut-être des feuilles un peu moins vertes, mais encore que ça, on peut trouver aussi des vignes faibles dans... Voilà, il y a un petit peu moins de vigueur herbacée, on va dire. Ça peut être un signe. En tout cas, il y a de l'herbe partout, et en particulier sous les pieds. Hein, parce que quand parfois les gens voient qu'il y a de l'herbe entre les rangs, ils se disent c'est en bio. Mais si c'est nickel comme un trottoir sous les pieds de vigne, ça, c'est sûr que ce n'est pas en bio. Parce qu'il n'y a que le désherbant qui permet de faire ça. Et puis un sol très plat, voilà. Sinon, l'aspect du raisin, non. Le goût, oui. Ça, c'est sûr. Et puis les résidus, oui. Sinon, l'aspect visuel, pas forcément, non.
Et en aspect quantitatif ?
Disons que on arrive à des rendements corrects, parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la vigne, elle a un potentiel de production très grand, beaucoup plus grand que ce que l'appellation, justement, impose comme règle. En gros, dans l'appellation Clairette de Die, on doit porter entre 50 et 60 hectolitres, c'est-à-dire à peu près... entre 7 et 8 tonnes de raisins par hectare, alors que la vigne est capable d'en produire le double si on la pousse. Si on lui met beaucoup d'engrais et qu'on taille long, elle produit des raisins. Alors après, le raisin ne sera pas goûteux, il y aura peut-être beaucoup plus de pourriture, il aura du mal à mûrir, mais quoi qu'il en soit, elle peut le produire. Donc si on lui demande d'en produire la moitié, pour elle, c'est relativement facile. Donc tout ça pour dire qu'en bio, on arrive à peu près au même rendement que les autres, sauf en cas de difficulté, voilà, de sol très, très pauvre, de grosse sécheresse. Parfois, on est un peu plus impacté que les autres.
D'ailleurs, la biodynamie prend-elle en compte l'aspect des bocages ou la biodiversité ?
Oui, c'est ça qui est intéressant en biodynamie. Mais je pense qu'en fait, les gens qui travaillent en bio peuvent avoir les mêmes ambitions ou les mêmes rêves, c'est-à-dire de reconstituer un univers dans la parcelle qui soit le plus naturel possible, sachant que l'agriculture, ce n'est pas du tout naturel, puisque précisément, on favorise une plante, et là, dans ce cas, la vigne, pendant 50 ans au même endroit, 50, voire plus, hein, elle peut rester même 100 ans, une vigne. Donc, vous voyez, sur le sol, la même plante pendant très longtemps. Dans les bois, c'est pareil. Les forêts restent des centaines d'années, mais il y a une variété, par contre, d'espèces. Alors que nous, on bloque une seule espèce. Voilà. Alors, ce qu'on essaye, c'est de cultiver des engrais verts, d'apporter une diversité, par exemple, des nichoirs, éventuellement de planter des arbres au milieu, enfin, de recréer une richesse. Parce que, en fait, la vie est beaucoup plus intense quand il y a de la variété. Et ça, c'est très important pour la vie du sol, pour l'avenir, pour tout, quoi. Il faut Il faut qu'il y ait un maximum d'insectes, de petits vers, de tout un tas de trucs qu'on ne voit même pas, à la fois dans la terre et dans les feuilles et partout, pour que les choses se passent bien. Et des oiseaux, etc. Voilà.
Vous disiez à l'instant donc, qu'une parcelle de vigne peut vivre et être utilisée jusqu'à 100 ans. Vient un moment donc, où on doit la laisser au repos et la laisser comment ?
Alors en fait, ce qui se passe, en fait, c'est une population, la vigne, donc petit à petit, il y a quand même les souches qui meurent, bon, soit de maladies, soit parce qu'on les blesse, soit parce qu'on les, voilà, on les heurte, ou bon, petit à petit. Donc au bout d'un moment, c'est économiquement, on peut se dire, est-ce que c'est encore intéressant alors qu'il y a la moitié des plants qui manquent ? Enfin, ça, la moitié, ça n'arrive pas, mais disons un quart des plants qui manquent. Les piquets cassent, les fils rouillent. Donc, il y a un moment, on se dit, bon, est-ce que je retape tout ça ? Est-ce que je la maintiens ? Ou est-ce que je l'arrache et que je la replante là ou ailleurs ? Alors, dans les grands crus, c'est sûr que les gens gardent leurs vignes, parce que c'est très important d'avoir des vieilles vignes. C'est les vieilles vignes qui font le meilleur vin. Nous, en clairette, c'est un petit peu moins évident, parce que la clairette, elle est... C'est vraiment un vin génial parce que, en fait, le procédé de fabrication de la clairette, l'idée de base, c'est que le goût du jus de raisin soit préservé. Donc, c'est les arômes jeunes, on va dire. C'est contrairement à des vins de garde, des vins rouges, où on va chercher des arômes beaucoup plus évolués, qui sont liés au terroir, à la manière dont la vigne est là depuis des siècles, enracinée comme il faut, enfin des siècles, des décennies. Pour la clairette, on est plus sur un vin jeune. Donc, c'est un peu moins flagrant qu'une vieille vigne de clairette fasse de la meilleure clairette qu'une jeune vigne. Voilà, pour dire les choses simplement. Mais en tout cas, moi, je sais que j'aime bien garder mes vieilles vignes. Parce qu'elles ont, je me dis qu'elles sont en équilibre. Si elles sont encore là quand elles sont vieilles, c'est qu'elles sont bien soignées, et que, voilà, qu'elles résistent, qu'elles...
D'ailleurs, un cep peut avoir une durée de vie jusqu'à combien ?
Bon, il y a des pieds de vigne qui ont plus de 100 ans dans les grands vignobles, ouais, Châteauneuf, en Bourgogne, oui, dans les crus prestigieux, oui, il y a des vignes qui sont très vieilles, peut-être 150 ans même. En tout cas, 100 ans, c'est sûr.
La biodynamie, donc c'est une science qui permet d'accommoder des éléments de la nature, de les combiner, les articuler, de manière à améliorer l'agriculture quelque part.
Oui, c'est un peu ça, en fait. C'est en plus de l'agriculture bio, on amène on pourrait dire des sortes de levains ou des ferments, c'est-à-dire on fait des préparations qui sont à base de produits animaux, soit des bousses de vache, essentiellement des bousses de vache. Après, qu'on mélange avec différentes plantes de la pharmacopée, qui sont des plantes ultra connues, hein, comme l'ortie, l'écorce de chêne, la valériane, voilà, la camomille, enfin, les plantes essentielles qui servent aussi à la médecine humaine depuis toujours. Et puis, les éléments minéraux principaux, comme le basalte, la silice... Et tout ce qui est carbonaté, sous forme avec des coquilles d'œufs, des choses comme ça. Enfin, je brosse très vite. Hein. Donc, c'est l'idée, voilà, du végétal, de l'animal et du minéral. Et avec ça, on fait une sorte de soupe qu'on met à maturer dans la terre. Et ensuite, ces matières-là, on les sort, on les brasse dans l'eau. C'est ça, la dynamisation. Et on les répand de manière... homéopathique, c'est très proche de l'homéopathie, en fait, c'est des doses très faibles. On les répand dans les vignes à différents moments de l'année pour l'aider à mieux s'enraciner, à mieux capter le soleil, à mieux pousser. Voilà, c'est une sorte d'alchimie, on peut dire, mais dans cette idée de ramener dans la parcelle ces forces végétales, animales et minérales.
Tous ces produits naturels qui sont utilisés sont certainement au-delà des prix qu'on peut trouver plutôt dans tout ce qui est proposé en chimie.
Non, parce que ça en plus, on les fabrique pour une part nous-mêmes. Et puis, on a un syndicat aussi, un syndicat, c'est-à-dire un groupement d'entraide d'agriculture biodynamique. Où il y a des, voilà, on a des groupes et on se retrouve et on fabrique nos produits nous-mêmes. Donc, C'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est pas vraiment compliqué, mais c'est à base de, voilà, de bouse de vache, de poudre de roche et de plantes. Donc, on achète les plantes si on n'arrive pas à les ramasser nous-mêmes chez nous. La valériane, par exemple, c'est pas facile à trouver dans le Diwa, mais par contre, l'aquilée, l'ortie, la camomille, on la trouve. Donc, on partage. Ceux qui ont quelque chose, ils apportent, on mélange et puis on fait nos préparations comme ça. Donc, non, le coût est faible.
Je parlais aussi par rapport aux éléments de la nature, le vivant. Donc, il y a, on peut parler des insectes sous la terre, ceux qui sont aussi sur la vigne, qui peuvent la protéger également.
Oui, c'est tout. Enfin, c'est un équilibre. Bon, après, il faut pas non plus, être naïf ou. Parce que ça coûte cher, la naïveté.
Non, mais je ne dis pas que c'est pas par naïveté, mais c'est, non, mais ça serait l'idéal, quelque part.
Ce que je voulais dire, c'était qu'effectivement, il y avait. Plus on avait d'insectes, de vers de terre, par exemple, de micro-organismes dans le sol, mieux ça fonctionnait, ça, c'est sûr. Mais on a aussi, quand même, la vigne est une plante qui n'arrive pas. Pratiquement pas à vivre seul sans être aidé, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui est un petit peu troublant. Quand on a un élevage, par exemple, on peut assez bien élever des brebis. Il y a toujours des bêtes malades, bien sûr, qu'il faut soigner. Mais globalement, la plupart sont saines. Alors qu'une vigne, si on laisse une vigne poussante, hein, je veux dire pas un vieux pied... très faible, qui est dans un coin et lui, il ne lui arrive rien, mais une vigne en bon état qui a des sucres, qui est capable de faire une production, si on la laisse toute seule, elle va être malade. C'est obligatoire. Et ça, c'est pénible pour nous, parce que du coup, il faut traiter. On ne peut pas ne pas traiter. Si on ne traite pas, on va avoir un dixième de récolte, voire zéro. Il y a des champignons, donc l'oïdium et le mildiou, hein, enfin, tout le monde connaît ça. Ça, c'est impossible de s'emparer, même une vigne isolée ici, quoi. Donc, on est obligé de traiter.
Et puis, la commercialisation, hein, du vin bio, sur quel essor est-il actuellement ?
Alors, si on parle général, c'est en expansion très importante. Et la production aussi, d'ailleurs. Et donc là, je ne parle pas clairette, hein, je parle vin en général. C'est peut-être un des produits agricoles qui a mis le plus de temps à être connu positivement en bio, parce qu'il y avait très longtemps une image de vin bio pas formidable. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En plus, il y a une mode très importante que tout le monde a repérée, c'est les vins nature. Donc ça, c'est une idée un peu différente de la bio, mais qui pour moi est absolument obligatoirement liée à la bio. C'est l'idée qu'en vinification, c'est-à-dire en cave, parce que le vin, c'est un produit, bien sûr, transformé, il y a le raisin et il y a qu'est-ce qu'on fait dans la cave. Et pour ça aussi, la biodynamie est une réponse. En biodynamie, on ne peut rien utiliser. On ne peut pas enzymer, on ne peut pas acidifier, on ne peut pas nourrir les levures. On a une vinification qui est quasiment naturelle. La seule chose qui est autorisée, c'est le soufre comme désinfectant ou comme protection à la mise en bouteille. Alors que le vin nature, en principe, n'en a pas ou très, très peu. Donc pour moi, le vin nature, c'est un peu l'aboutissement d'un produit bio, à condition que le résultat soit satisfaisant au niveau gustatif, quoi. C'est-à-dire qu'on n'ait pas de dérive. Donc le commerce en vin biologique est en très grande, très grande expansion.
La France, dans ce domaine, est précurseur au niveau mondial, ou il existe d'autres pays qui pratiquent cette technique ?
Oui, on est assez précurseur. Aussi dans la mesure où le vigno français est quand même un peu en pointe, enfin au niveau de ses appellations, voilà, de sa reconnaissance. Il y a quand même beaucoup de producteurs bio en France maintenant en vigne. Hein, ça s'est énormément développé, et en particulier dans les grands crus, ce qui est pour moi une petite victoire, parce que à l'époque, il y a 30 ans, On disait, oui, mais vous, vous dans le Diwa, c'est facile, mais nous, à Bordeaux, on est des professionnels, on est sérieux, on fait du vin, on ne peut pas se passer de la chimie. Et aujourd'hui, les plus grands domaines, les plus prestigieux, on a aussi dans les Côtes-du-Rhône, sont en bio, voire en biodynamie. Donc ça veut dire que c'est de cette manière-là qu'on a les vins de la meilleure qualité. Et puis surtout, enfin pas surtout, mais aussi, on se protège de tous les problèmes de crise sanitaire qui ne vont pas manquer de se produire encore. On a eu le Roundup, là en ce moment on a les fongicides, et puis demain ça sera encore autre chose. Les résidus sont partout, les gens tombent malades et plus personne se tait. Donc forcément, les problèmes vont sortir sans cesse.
Par rapport au prix entre la production conventionnelle et celle du bio, qu'est-ce qui fait la différence des prix ?
Alors, on peut dire qu'au niveau de la production du raisin, si on part de l'idée que le rendement est à peu près le même, c'est surtout une question de main-d'œuvre. En fait, on passe beaucoup de temps à travailler les sols, à mettre des engrais sous forme de compost et à faire tout le travail, ce qu'on appelle l'épamprage pour les gens qui sont un peu dans la vigne, c'est-à-dire qu'on enlève tous les gourmands. Et par exemple, au pied de la vigne, il y en a énormément. Et ça, quand on le fait à la main et quand on enlève l'herbe à la main, c'est bien plus long que si on le fait avec du produit. Donc on a peut-être 150 ou 200 heures de main-d'œuvre supplémentaire. Alors on économise un peu l'achat de ces produits qui sont fort chers, mais globalement, on a quand même un surcoût de, moi j'estime, au moins 15%. Et puis après, il y a une plus grosse angoisse parce qu'on traite avec des... Comme je vous disais, on est obligé de traiter quand même avec des sels de cuivre, dans la bouillie bordelaise par exemple, mais on traite presque 10% de la dose homologuée, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un très très faible. Donc s'il y a une forte attaque, on est obligé d'y aller souvent, on est très vigilant, on est un petit peu stressé quand même pendant la saison, on va dire mai, juin, juillet, c'est pas facile. Et ça mérite un petit supplément de rémunération.
Et puis, il y a aussi le climat, la météo qui agit beaucoup. Oui. Il y a eu ces problèmes de gel il y a quelques années. Je crois qu'il y a... Je ne sais pas si c'est une bêtise, mais on me dit qu'il y a eu des feux allumés aux abords des vignes pour maintenir une température.
Oui, ça se fait dans les grands vignobles aussi, hein, mais essentiellement en Bourgogne, c'est très courant, mais bon, c'est des vins qui méritent, j'allais dire, c'est pas le bon mot, mais qui se vendent suffisamment cher pour justifier d'investir dans des braseros et de passer la nuit dans la Loire, ils le font aussi. Nous ici, ça s'est jamais fait dans le Diwa. Mais peut-être qu'un jour, on va être amené à le faire parce que c'est vrai que le climat change. Ce n'est pas tellement que les gels augmentent, c'est plutôt qu'ils ne sont pas assez présents en hiver. Et du coup, la vigne démarre trop tôt au printemps. Et donc, les gels du mois de mai, du début mai, qui normalement tombaient auparavant sur des vignes qui n'avaient pas commencé à pousser... Aujourd'hui, ils arrivent sur des vignes qui ont déjà démarré et donc qui sont bien plus fragiles. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est pas qu'il y a plus de gel qu'avant, c'est au contraire qu'il y en a moins. Et donc, ceux qui arrivent, sont dangereux.
Faudrait-il faire venir les canons à neige des montagnes pour rafraîchir un peu le terre ?
Oui, c'est ça. Il faudrait arriver à ce que... En tout cas, on limite... le plus possible cette dérive climatique. Hein, je pense que tout le monde en est conscient maintenant, mais malheureusement, ça fait 20 ans que dans certains cercles, on en parle et que, voilà, comme pour l'agriculture bio, malheureusement, tous les gens qui ont été dans cette ligne-là avaient raison. Alors, c'est satisfaisant intellectuellement de se dire qu'on avait raison, mais par contre, c'est un peu dommage.
D'ailleurs, l'eau aussi, est-elle un problème de plus en plus présent, ne serait-ce que dans la vigne ?
Non, ce qui se passe, ce qu'on peut dire d'une manière générale, c'est que elle n'est pas répartie de manière classique. Bon, il y a toujours eu des aléas, mais aujourd'hui, les étés, parce qu'il semblerait que les étés soient vers des étés de plus en plus chauds et de plus en plus secs, et des hivers de moins en moins froids et de plus en plus humides. Donc globalement, sur l'année, je pense que l'eau elle sera présente, sauf qu'elle n'est pas du tout répartie comme il faut. Et la vigne, quand il pleut des centaines de millimètres au mois de janvier, elle s'en fiche. Et quand c'est de la neige, ça tempère, ça passe dans les nappes plus lentement. Quand c'est des trombes d'eau, ça fait des poches, ça fait de l'érosion. Voilà, c'est plus l'excès qui est... L'excès à certaines périodes, pendant l'automne et l'hiver, et puis au contraire, une sécheresse très violente l'été. Et ça, la vigne n'aime pas. Donc, toutes les vignes qui sont dans des terrains, disons, un peu très en pente, un peu maigres, qui étaient normalement les vignes qualitatives d'il y a 20 ans, deviennent des vignes problématiques. Et les vignes qui sont sur des terrains plus faciles, plus plats et plus riches, avant, c'était des terrains qu'on plantait pas trop en vigne parce qu'ils n'étaient pas qualitatifs. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont les meilleurs. Donc voilà, c'est plutôt dans ces termes-là. Est-ce que les coteaux vont s'abandonner? Mais...
Vincent Lefort, donc vous êtes optimiste quant à l'avenir du vin bio et pourquoi pas de votre production côté Cairn?
Oui, je suis plutôt optimiste. Enfin, pour côté Cairn, je suis optimiste parce que on fait des vins qui nous satisfont. On a quand même en 3-4 ans rencontré nos clients qui nous félicitent. Voilà, sur le Crémant aussi, le Châtillon, la Clairette qui a une typicité très particulière, qui je pense est une typicité un peu Audiwa et puis un peu biodynamie aussi certainement. Donc ça on est content. L'inquiétude, elle est peut-être sur la conjoncture générale. Clairette n'est pas super enthousiasmante en ce moment. On pourrait dire que, quelque part, elle semblerait être un peu passée de mode. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, ça va très vite, les goûts. Et dans le vin en particulier, le vin est très lié à la mode. Hein. C'est en fait des tendances. Et il semblerait que par défaut de communication, peut-être un peu moins de présence, on n'est plus dans l'air du temps. Et alors que quand on l'a fait déguster, en particulier aux gens jeunes, ils adorent. Et c'est une alternative au champagne, à des vins bruts. C'est super en apéritif, c'est super dans les fêtes, c'est super... À consommer. Les gens sont très surpris, mais il n'y a pas la com autour suffisamment. Donc, je pense qu'il va falloir que les viticulteurs se remuent collectivement là-dessus. Et puis, il faut que tous les Diois soient un petit peu nous soutiennent. Enfin, pas seulement en consommant, mais en la faisant goûter aux gens qui la connaissent pas, parce que c'est un truc vraiment original et super naturel. Et ça, c'est quand même dans l'air du temps.
Et donc, la Clairette et l'international, ça va comment ?
C'est pas connu. Déjà, c'est pas suffisamment connu en France, mais alors à l'international, c'est carrément inconnu. Les gens à l'international, ils connaissent le champagne. Et donc, et puis il y a un petit peu une sorte de liaison entre qualitatif et brut. Il y a plein de gens qui disent « moi, je veux du brut parce que le brut, c'est le champagne, c'est bien ». Et nous, la Clairette, on n'est pas brut. Et donc, du coup, ils se disent « sucré ». Ils imaginent qu'on rajoute du sucre, ils imaginent qu'on rajoute des bulles. Parce qu'en fait, dans le monde de l'industrie, on peut faire ça. Et on trouve d'ailleurs des cuves closes un peu au rabais, à 3 ou 4 euros. Nous, c'est pas ça du tout, quoi. C'est une fermentation naturelle. En fait, c'est un vin qui n'est pas fini. La fermentation se fait dans la bouteille. Le sucre qui reste, c'est le jus de raisin. C'est le sucre du raisin qui est présent. La bulle, elle est fine parce qu'elle se fabrique naturellement dans la bouteille. Là, on est dans un produit super naturel. Mais voilà, il y a une confusion avec des trucs vraiment bas de gamme qui sont totalement industriels, eux. Et il faut qu'on arrive à recommuniquer pour promouvoir ce produit-là, quoi, qui est super original.
Par rapport à la chambre d'agriculture, il y a une sensibilité qui s'est opérée au niveau du bio depuis un certain temps, j'espère. Et est-ce que cela va grandissant? Et est-ce que cette chambre d'agriculture est incitative auprès des producteurs pour aussi développer le bio, par exemple?
À la première partie de votre question, je dirais oui. Il y a un pôle bio à la chambre. Il y a des techniciens qui sont motivés, qui participent en tout cas de la communication sur des méthodes alternatives. Il y a ce fameux salon, qui s'appelle Tech and Bio, qui est né quand même à Valence, à l'automne, dont la chambre promeut ça, en fait partie. Voilà, tout ça est plutôt vraiment positif. Après, je dirais que c'est quand même plutôt Agribiodrome, le groupement d'agriculture biologique régionale, Drôme départementale et régionale, la fédération régionale, qui défend vraiment la bio. La chambre d'agriculture, elle est mixte comme elle a aussi des semenciers, elle a aussi des gens qui sont pas en bio, donc voilà, elle
c'est une représentation à ça. 90% ouais. De FNSEA,
ouais,
je crois.
Aussi.
Avec une introduction récente de la
ouais.
Confédération paysanne. Hein.
Oui, oui.
C'était
voilà.
Une première
ouais.
Un peu. Pour la communication, donc vous avez certainement un site internet.
Oui, oui, on a un site internet, oui. Ouais, c'est Ambiz qui s'en est beaucoup occupé. Donc allez le voir. il est sympa, je pense qu'il est. Voilà. Et puis on est ouvert à toute remarque ou. Pour améliorer, pour c'est vraiment l'idée d'essayer de transmettre un peu notre histoire. D'ailleurs, à ce propos, on est maintenant 4. On a une nouvelle adhérente, on va dire, enfin, disons associée, qui est Nathalie Brun de Montlaur. Donc, on reste dans notre typicité Odiwa parce que les choses se sont faites comme ça et puis. Je pense qu'on est assez content de la typicité des vins qui est quand même pas mal liée au terroir particulier d'ici, c'est-à-dire à la fois l'altitude, la fraîcheur des nuits, des terres très, très argileuses qui ont leur qualité aussi.
Et on
travaille tous en biodynamie à côté Cairns, c'est une obligation bien sûr. Quoi.
J'en reviens à Cyril Copier qui s'est formé à la biodynamie. C'est une formation qui se pratique sur combien de temps et qui est sans cesse peut-être aussi à se mettre au fait de l'actualité.
Oui, oui, c'est sûr que dans le groupe, c'est Cyril qui était un peu le moteur de toutes ces innovations. Mais la biodynamie, la taille Guyot-Poussard, qui est une taille qui est plus respectueuse des flux de sève, enfin qui est moins traumatisante pour la vigne, l'agroforesterie, voilà toutes ces choses-là qui tournent autour, sont pas spécialement biodynamistes, mais qui sont dans cet état d'esprit, disons. Et il a fait des formations. Nous aussi, on en a fait. Disons tous les ans, on essaye de passer un jour ou deux. Pour déjà rencontrer les autres et puis discuter des innovations. Mais c'est sûr qu'au départ, il faut bien passer 3-4 jours pour se plonger dans les principes.
Vincent Lefort, je vous remercie donc de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous présenter ce qu'est la Clairette et puis de nous parler aussi de côté Cairn.
Avec plaisir.
Eh bien, je vous souhaite une bonne
soirée.
Merci
aussi.
Au revoir.
Au revoir.